pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, bienvenue au Domago, le café mythique de Saint-Germain-des-Prés, émission spéciale cette semaine. J'aime pas beaucoup les anniversaires et les commémorations et tout ça, mais là quand même, j'ai saisi l'occasion, le prétexte, pour parler de l'un des plus grands génies littéraires français, quand on l'a lu, c'est un ami, Boris Vian. Boris Vian qui aurait eu 100 ans cette semaine, donc le 10 mars exactement. Résultat, des manifestations, des spectacles, des rééditions et des expositions comme celle des deux magots qui nous accueillent. Une exposition intitulée « Boris Vian à Saint-Germain-des-Prés de 1945 à 1952 ». On en parle dans un instant avec Carole Fernandez-Raven, la directrice de communication des deux magots. Avec nous également, Nicole Berthold, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous voir. Je vous avais croisé un jour chez Boris Vian lui-même. Vous faisiez visiter son appartement de la cité Véron du côté de Pigalle. Un appartement qui est resté en l'état, que vous habitez, que vous occupez, que vous gardez vivant. On va en parler aussi. C'est vous, par ailleurs, qui êtes mandataire pour l'œuvre de Boris Vian et directrice du patrimoine de Boris Vian. Je trouve ça excellent comme terme, on va en parler aussi. Merci d'être venu.
Merci.
On parle poésie, musique, roman. Donc forcément, paf, on voit apparaître Mathias Malzieu. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Merci d'être là.
Avec plaisir.
Vous êtes un grand admirateur de Boris Vian, vous aussi.
Oh oui.
Votre film Une sirène à Paris, qui fait suite au roman d'ailleurs, a des accents vianesques. On va s'intéresser au style Vian, à la poétique Vian avec vous. Philippe Dussault est là aussi. On garde quand même l'ossature habituelle de l'émission. Le comédien nous lira les toutes premières pages de L'écume des jours, forcément. Les libraires aussi, c'est évident. Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure et Pauline Carayon du CNL ont fait le déplacement. Pauline, pour vous, pour une fois, c'est pas un livre, mais des chansons. Mais pour Boris Vian, on a le droit. Ça tombe bien, ce sont des lecteurs éclairés de Boris Vian, ces deux-là. Et puis, ils font un peu la mouche du coche comme ça. Puis, ils nous conseilleront des livres de Boris Vian tout à l'heure. Voilà, tout le monde est prêt. Le piano cocktail aussi. On peut y aller. La voix est libre. C'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Caro.
Alors d'abord, j'ai un exercice pour vous, Nicole Berthold. Comment vous présenteriez Boris Vian à quelqu'un qui n'en a, mais alors, jamais entendu parler? Boris qui? Comment vous le présenteriez? C'est qui Boris Vian?
Boris, qui a 59 pseudonymes, qui a 1000 vies, donc un homme libre, un homme qui ne fait pas de compromis, qui met d'abord la gaudriole et les copains avant tout le reste, qui est surtout pro-civil et qui n'a rien à voir avec les institutions.
C'est pour ça que je vous pose la question. C'est très très compliqué de cantonner Boris Vian à une seule case. Il est multiple, il est jazzman, il est évidemment romancier, éventuellement ingénieur, puisque ça a été son métier quand même.
Et il a fait l'école centrale.
Voilà. Mmh,
tout à fait. J'ai envie de dire qu'on pourrait faire par soustraction que peut-être Boris Vian aurait à peu près tout fait dans sa vie s'il était effectivement encore parmi nous. Et il y a quelques toutes petites choses qu'il n'aurait pas pu faire, hein, parce qu'il avait décidé qu'on pouvait tout faire dans la vie, et il estime que tout le monde d'ailleurs a à peu près le même don. Et là, mon regard va directement vers Mathias.
Et bien moi aussi, c'est vrai que ça vous correspond bien, Mathias, cette idée. Vous aussi, vous avez ce côté-là. Vous avez créé, et vous êtes le leader du groupe Dionysos, enfin vous faites partie du groupe Dionysos, vous êtes romancier, cinéaste, c'est aussi ça, être un disciple de Boris Vian.
Oui, en fait, moi, il m'a ouvert des portes. Parce que quand j'ai lu L'écume des jours, j'ai commencé un arbre généalogique un peu fou avec les chansons, les poèmes. Et j'ai découvert l'œuvre et le personnage.
À quel âge ?
19 ans.
D'accord.
19 ans. Un cadeau d'une Chloé.
Ah bon, en plus ?
Un cadeau d'une Chloé.
Ouais. Chloé qui est le personnage de L'écume des jours.
Qui avait un air de,
bien sûr.
Un air d'un air de jazz.
Alors, Carole Fernandez-Raven, on est chez vous. Pour ça, quand même, les deux magots exposent des pièces rares de la vie de Boris Vian. Des manuscrits, des éditions qui ont été prêtées,
absolument,
j'imagine, par Nicole Berthold.
Qui appartiennent à Boris Vian.
Appartiennent à Vian, oui.
Qu'est-ce qu'on peut voir au De Mago sur Boris Vian?
Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on a fait au De Mago sur Boris Vian depuis, en fait, le vernissage clôture l'année Vian au De Mago, où plein de choses se sont passées. On a créé la religieuse by Pierre Hermé, la trompinette, voilà, de Boris Vian.
Alors c'est quoi cette religieuse?
Cette religieuse, c'est une religieuse exclusive aux deux magots qu'a créé Pierre Hermé en l'honneur du centenaire de Boris Vian. que vous pouvez déguster uniquement et exclusivement aux Deux Magots.
Mais il y a quoi dedans?
Il y a quoi dedans? Il y a du chocolat. Il y a du chocolat au lait, il y a du chocolat noir, et il y a un petit peu aussi de chocolat entouré de framboises. Voilà, on a également la blanquette Boris Vian, la blanquette Boris Vian façon gouffée. Il en parle dans l'étude des jours, n'est-ce pas,
oui.
Nicole?
C'est presque un personnage.
C'est presque un personnage, absolument. Et on a également, toute l'année, a été ponctuée par les Jeudis du Jazz, où chaque jeudi, on a joué, chanté, célébré Boris Vian. On a également fait venir lors au mois de juin le piano cocktail, le fameux piano cocktail de l'écume des jours.
Alors le piano cocktail, faut expliquer, c'est une invention de Boris Vian.
Absolument.
On joue et pendant qu'on joue, en fonction de notre humeur et de ce qu'on joue,
absolument,
ça crée un cocktail.
Absolument, ça crée un cocktail.
Mais ça n'existe pas ça.
Mais si, ça existe. Quelqu'un l'a construit, on l'a fait venir aux Deux Magots.
Tout est vrai parce que je l'ai inventé.
Absolument.
C'est exactement ça.
Vous connaissez le piano cocktail? Vous l'avez essayé?
Oui, bien sûr. J'en ai un chez moi.
Non.
Si?
Non.
Si, quand je joue des mineurs, ça fait de la grenadine. Quand je joue des majeurs, ça fait du whisky.
Génial.
Ah ouais, j'en ai 3 ou 4. J'ai une petite pièce uniquement pour des piano cocktails chez moi.
Et donc, vous finissez la soirée comme ça? Parce qu'à force de boire des cocktails, on joue du piano.
Il y a une chanson de Tom Waits qui dit The piano has drunken quelque chose. Et en fait, je pense que c'est de la télépathie avec Boris Vian.
Nicole Berthold, on est au Deux Magots et c'est un endroit que, en tout cas Saint-Germain-des-Prés, que fréquentait Boris Vian. Il me semble qu'on l'appelait même le prince de Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il faisait dans le quartier?
Ah, Boris Vian a aimé tout de suite ce quartier qui, justement, donnait envie de faire tout ce qu'on voulait et a commencé par jouer de la musique, jazz quand même, ce qui était interdit par les Allemands pendant la guerre. Et aussi, on pouvait rencontrer des tas de personnes pour créer des projets. C'est un vrai bouillon de culture, en fait. Donc ça s'est organisé très très doucement, en fait, en 1944. On a quand même découvert certains endroits, et c'est Claude Luther, on l'oublie souvent, en fait, au Vieux Colombier, qui a été le premier à jouer du jazz dans un endroit qui s'appelait donc le Vieux Co, et aussi qui a donné le goût de ces jeunes de se rassembler là. Et puis après, Juliette Gréco, qui, tout à fait par hasard, a fait tomber son manteau dans un petit bar, 33 rue Dauphine. Elle a fait tomber son manteau à côté de l'escalier. Pour le récupérer, elle a pris l'escalier, elle a demandé à la patronne de descendre. Et puis de fil en aiguille, elle s'est dit, elle a poussé la porte et puis elle a vu une espèce de grande cave où il y avait beaucoup de charbon dedans, c'était très noir, très poussiéreux. Elle est remontée, elle a dit à la patronne, mais dis donc, si on vous nettoie votre cave, on pourrait peut-être aller jouer de la musique là-dedans. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils vont faire. Et comme Boris n'est pas loin, on lui dit, toi, tu vas faire l'accueil et puis tu vas choisir les musiciens. Et puis elle avait comme complice Anne-Marie Casalis. Et elles deux, en fait, elles ont commencé à rameuter tout le quartier comme ça. Puis ça s'est fait très, très vite, tout ça.
De l'importance du poids du manteau, quand même. Parce que si elle avait un manteau d'été, elle n'aurait peut-être pas fait basculer la chaise. Elle n'aurait peut-être pas eu tout ça.
Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a
magnifique.
Que de la poésie.
On était effectivement l'hiver, parce qu'ils ont ouvert au mois d'avril. Ah oui. Et le temps de nettoyer la cave, effectivement, ça a pris
exactement.
Du temps. Donc c'était l'hiver. Bravo, Mathias.
Mathias, vous avez traîné ces jeudis du jazz et de Boris Vian ici, là?
Oui, je les ai fait presque tous depuis,
ah oui, à ce point-là.
Depuis le 7 novembre.
Un grand habitué, Mathias.
Depuis le 7 novembre, oui. Oui, c'est génial parce qu'on a l'impression de rentrer dans une machine à remonter le temps. Un petit peu comme quand on va dans la cité Véron, quand on va dans cet appartement magique que Nicole a effectivement gardé complètement en l'état. C'est magique parce que, en fait, elle n'a rien touché et en même temps, ce n'est pas un musée, ça vit parce qu'elle vit dedans. Du coup, on a l'impression qu'on peut vraiment croiser le fantôme de Boris Vian, qu'on peut lui serrer la main. Bon, on se met un peu de trucs hydroalcooliques quand même parce que peut-être que même les fantômes peuvent avoir le coronavirus, on ne sait pas. Mais c'est assez magique et ici, en fait, on retrouve la même sensation. C'est jeudi du jazz, c'est super, on entendait chanter du Boris Vian, on échangeait, on est dans un endroit où il a vécu, on a l'impression d'être à l'intérieur de son corps, de son cœur et un de ses livres. Comme s'il continuait comme un samouraï, que son œuvre continuait à vivre et qu'on faisait partie d'un livre qu'il n'aurait pas encore écrit.
C'est vrai qu'on parle parfois de la musicalité des mots et des œuvres et des romans et du style. Chez Boris Vian, c'est très très clair. Si on veut savoir ce que ça veut dire, cette musicalité des mots, chez Vian, on a l'impression de lire du jazz. C'est assez fou pour ça.
C'est sous influence bebop complètement, quoi. Comme un petit peu les poètes de la Beat Generation, comme tous les Kerouac, Corso et compagnie. Il y avait cette influence de la musique comme un narrateur omniscient, une pulse dans leur musique. Et c'est, du coup, c'est très joueur et c'est très joyeux. Même quand c'est triste et dramatique, il y a une joie, un souffle qui l'emporte.
C'est ce style-là qui vous inspire aussi? C'est cette musique-là, ce rythme?
Oui, c'est la musique d'une manière générale. Mais c'est vrai que je suis un fan de jazz et fan de bebop. Et que le prisme de Boris Vian là-dessus a été super parce que en même temps je l'ai découvert donc par une amoureuse qui s'appelait Chloé et en même temps mon père écoutait beaucoup de jazz New Orleans. Du coup je me suis réconcilié avec les à l'époque moi j'écoutais que du rock indé américain et en fait ça, je suis revenu au swing, au jazz et au disque de mon père par Boris Vian.
Voilà, on a entrouvert le roman de la vie de Boris Vian. C'était la préface. On reprend l'histoire depuis le début dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, la voie est libre. Nicolas Carreau.
De retour au Demago, le café mythique de Saint-Germain-des-Prés à Paris pour une émission consacrée à Boris Vian. Il aurait eu 100 ans cette année, un peu partout en France depuis quelques mois et pour quelques mois encore. Il y a des manifestations, des expos comme celle des Demago, des lectures, des commémorations. Il aurait eu 100 ans, mais il est mort très jeune, à 39 ans, en 1959. Il a toujours eu une santé fragile, Nicole Berthold, vous êtes toujours avec nous. J'avais vu un de ses bulletins scolaires sur lequel le prof avait noté « Bon élève, intelligent, travailleur, ses résultats seraient meilleurs avec une meilleure santé ». C'était ça ce qui créait chez lui aussi cette urgence.
Oui, en quelque sorte, mais pas que. En fait, je crois qu'il avait vraiment beaucoup de choses à dire. Sa maladie du cœur s'est déclarée à l'âge de 12 ans.
Comment ça se
traduisait ? Il a commencé à avoir vraiment des gros, gros, graves problèmes respiratoires et des battements de cœur tout à fait anormaux, des arythmies et tout, être extrêmement faible, etc. Donc c'est vrai qu'il ratait souvent l'école. Mais finalement, les parents, au départ, n'avaient pas mis leurs enfants à l'école. C'était tout à fait anti-institutionnel. Donc au départ, ils n'allaient pas à l'école. Ils avaient quelqu'un qui venait de temps en temps. Et puis les parents apprenaient des tas de choses aux enfants. Puis à 12 ans, il tombe malade, il a commencé à aller un petit peu à l'école, à droite à gauche, j'ai envie de dire. Il fait le minimum, lui il fait le minimum, il est très intelligent mais il fait le minimum. La maladie est déclarée mais les jeunes, on le met sur le dos de la jeunesse, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Mais finalement à l'âge de 15 ans, va se déclarer là quelque chose de vraiment très très grave. Il va faire une espèce d'œdème pulmonaire extrêmement grave et en plus il va attraper une typhoïde. On peut considérer que c'est un miracle s'il est resté vivant sur la Terre. Je pense qu'à ce moment-là, il s'est un peu dédoublé. Il y a celui qui voulait continuer de vivre et puis il y a celui qui était quand même fragilisé.
Donc, il savait qu'il pouvait mourir à chaque instant.
Oui, à chaque moment. Mais il avait déjà beaucoup de choses à dire. Sa sœur qui était une grande amie, Ninon, sa petite sœur que je connaissais très bien, qui était un peu comme ma tata, elle me disait, mais même moi quand j'allais me promener dans le jardin avec lui, lui tenait la main, il me racontait des trucs, je ne comprenais rien. Il était parti loin, loin, loin. Il avait un imaginaire pas possible. Il expliquait des tas de choses, il s'intéressait à beaucoup de choses, l'aviation, les mathématiques, très jeune. Boris Vian dit, à l'âge de 9 ans, et c'est vrai, hein, à l'âge de 9 ans, j'ai lu toute la bibliothèque de papa et maman, tout jusqu'à Maupassant. Je suis débarrassé, c'est fait, j'ai la base. À partir de là, il peut s'octroyer tout ce qu'il veut. Et donc cette urgence, elle n'est pas simplement liée à la maladie, elle est liée aussi à vouloir faire plein de choses. Parce que dans la famille, ils sont quand même tous très très brillants, ils ont envie de faire plein plein de choses. Voilà. Alors forcément, ça s'est certainement accentué avec le temps. Mais c'était quand même quelqu'un déjà de différent, tout simplement différent.
Mathias Malzieu, je ne voudrais pas faire un parallèle maladroit, vous allez me dire. Mais vous avez écrit « Le journal d'un vampire en pyjama », qui est le récit d'une très grave tuile de santé que vous avez eue, une maladie du sang. Vous en êtes sorti, vous avez écrit donc ce livre pour raconter. Est-ce que ça, vous avez pensé à Boris Vian à ce moment-là ? Est-ce que ça crée une proximité avec lui ?
Ça a augmenté la proximité, c'est sûr. Surtout qu'il y a une ironie du mauvais sort chez lui. C'est que la maladie de cœur qu'il a eue, d'après ce que j'ai compris, on a trouvé un traitement, une façon de l'opérer seulement à peine quelques années après sa mort. Donc c'est rageant. C'est terriblement rageant parce que lui, il s'est dédoublé. Il a essayé d'aller plus vite que la musique tout le temps. Il y est arrivé parce que voilà, quand on regarde ce qu'il a vécu, ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait, et du coup, comme il était exactement ce qu'il faisait, ben, quelque part, pour moi, il a vécu 120 ans. Mais malheureusement, il aura pu en vivre encore 240 si la biologie avait su réparer les choses 3 ans plus tôt.
Le pire, c'est que ça l'aurait peut-être fait marrer.
Pardon ?
Le pire, c'est que ça l'aurait peut-être fait marrer.
Ben, bien sûr que ça l'aurait fait marrer, parce que c'était ça, sa force. Son souffle et son énergie viennent de là, en fait. Le décalage entre la poésie et l'humour, cette mathématique amusante-là, il les mettait au même niveau d'hiérarchie. Ça fait qu'il se prenait jamais au sérieux. Et du coup, c'était toujours accueillant. Et évidemment que dans des moments difficiles, j'ai pensé à lui, parce que ne serait-ce qu'arriver à rire soi-même de sa situation, mais même faire rire les autres, c'est-à-dire que moi, je me rappelle qu'arriver à faire rire une infirmière, ça me faisait aussi beaucoup de bien, par exemple. Et oui, évidemment, j'ai beaucoup pensé à lui, et notamment à la chance que j'ai eue, moi, de me sortir de ce mauvais pas.
C'est ça, en fait, ce qui nous apporte Boris Vian. Mathias Malzieu vient de le dire, c'est le fait de ne jamais se prendre au sérieux.
Oui, une joie de vivre profonde. Finalement, quand on sait qu'on peut mourir, en général, on le double d'une joie de vivre profonde. Et oui, et jamais se prendre au sérieux. Alors ça, c'était presque aussi une position familiale. Et j'ai envie de dire presque politique. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans la vie que de dire des choses sérieuses avec pas du tout de sérieux ou de temps en temps l'inverse. Et ça, Boris Vian, il excelle par rapport à ça. Hein. Et on l'entend dans les interviews, par exemple.
Ce qui est très fort, c'est de le faire passer dans ses romans aussi. Parce que quand on a lu un seul roman de Boris Vian, n'importe lequel, plutôt L'écume des jours, ou voilà, peut-être moins, je dirais, Cracher sur mon tombe, on va en reparler, mais enfin, L'écume des jours ou les classiques de Boris Vian comme ça, on voit pas la vie de la même façon. Et on la voit pas aussi sérieusement qu'avant.
Ah oui, complètement.
Tout peut prêter à rire ensuite.
D'abord parce que les animaux peuvent parler, c'est l'herbe rouge. Parce que les objets peuvent bouger. Colin qui se casse la figure dans l'escalier parce qu'il y a ces lacets qui ont décidé de se batailler parce que le gauche veut aller à droite et le droit veut aller à gauche. Moi, je sais pas. Bon, moi, je trouve ça plus que brillant, plus qu'extraordinaire quand même. Ces jours, son mariage, il a très peur de se faire un coquard et tout. Enfin, il y a tellement de choses. Il y a une chose si jolie. Quand j'étais toute jeune et que j'ai lu ça vers 13-14 ans, il y avait une petite jeune fille qui passait dans une rue. Et puis, à un moment donné, il y a les réverbères qui se penchent et dans ce coucher de soleil qui la salue. Bon, voilà, je sais pas, c'est de la poésie pure. D'ailleurs, Prévert, son voisin de palier, disait « Le poète, c'est pas moi, c'est lui ». En face.
Oui, ils étaient voisins, mais c'est-à-dire qu'ils partageaient la même terrasse.
La même terrasse, le même palier, absolument. Oui.
C'était un hasard ou l'un est venu avec l'autre? Comment ça s'est passé?
On va dire que l'agent immobilier, je crois, a bien fait les choses.
D'accord. Il y a des secrets derrière tout ça, quoi.
Oui, et puis c'était l'arrière du Moulin Rouge et l'un et l'autre étaient mariés avec des danseuses.
Bah, puisqu'on y est, on va en parler de cette cité Véron quand même. C'est derrière le Moulin Rouge, effectivement. Il faut prendre une petite rue, une toute petite ruelle, et puis on rentre dans un endroit un peu bizarre, et puis on arrive dans un appartement, c'est celui de Boris Vian, et le vôtre en fait maintenant.
Oui,
c'est pas un musée.
Oui.
Hein, il faut
ça a toujours été un appartement. Quand Boris en fait y habitait, il a tout fait dans cet appartement de ses mains, sur plusieurs années. Il a poussé les murs de 40 mètres carrés, il a terminé à 90 mètres carrés, donc c'était pour lui Byzance, etc. C'était très important et intéressant. Il y faisait de la musique avec ses amis, à commencer par Alain Goraguer ou Michel Legrand. Et éventuellement, si M. Quincy Jones passait par là avec Eddie Barclay, c'était encore mieux. Mais il y a surtout qu'il avait envie d'avoir un chez lui. Donc il y avait son fils aussi qui habitait là. Et c'était quand même deux familles qui habitaient l'un côté. Hein. Jacques Prévert habitait avec sa femme et sa fille. C'était deux familles. Et donc il y avait quelque chose de très privé. Donc c'était un appartement qui était très, très familial, très convivial, très coloré, très chaleureux. Quand il est mort, tout est resté en l'état, pouf, comme ça, d'une heure à l'autre. Ursula, elle n'a pas eu le cœur, son épouse, elle n'a pas eu le cœur de le quitter, cet appartement. Et il y a Michel Legrand qui lui disait, mais tu peux pas partir. C'est le cœur vibrant de Boris. Brassens venait, il lui disait la même chose. Il lui disait, ma petite, tu peux pas lâcher ça.
C'est dur quand même, elle fait ce qu'elle veut. Elle avait envie de partir, elle.
Non, pas vraiment, mais elle était tellement perdue. Elle veuve à 30 ans d'un Boris Vian. C'était quand même la chute la plus vertigineuse. Je sais pas si un jour elle a remonté, mais moi qui ai travaillé pendant 35 ans avec elle, elle m'a tout appris, tout donné, tout transmis. En réalité, je me suis bien rendu compte qu'elle continuait quelque part de vivre avec Boris Vian dans cet appartement. Et finalement, au fil des années, on a aménagé des petites choses comme ça. De temps en temps, on déplaçait un tableau ou un meuble et tout. Mais enfin, finalement, on avait envie de garder tout ça. Et puis, elle parlait toujours de Boris. Et puis, on parlait de Boris. Et puis, Boris, il aurait dû faire ci. Puis, il aurait dû faire là. Et puis, tout est resté là. Et puis, moi, j'ai pas vu le temps passer. Et puis, ça fait 44 ans.
Mais comment vous êtes arrivé là? Comment vous avez décidé d'habiter là?
Oh, j'ai rencontré Ursula Vian, en fait, dans le sud de la France, où elle avait elle-même une maison aussi. Et on a... j'ai pas tellement de mots, c'est difficile là pour la radio. Comment dire? Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Je crois qu'elle avait besoin de quelqu'un de l'extérieur avec qui elle pouvait s'exprimer, dire des choses. Et je sais pas pourquoi, mais on avait presque 30 ans d'écart et pourtant c'était moi. Je suis restée un peu à ses côtés, j'étais sa petite main, je ramassais son chignon s'il fallait, je faisais le thé qu'elle préférait, tout ça, j'écoutais et tout. Bon, et puis un jour, je suis arrivée à la cité Véron. Et puis, je suis arrivée avec mon sac à main et puis quelques mauvaises nouvelles dans mon sac. Et je me suis assise sur le canapé et puis je ne savais pas trop quoi dire. Et puis, elle m'a dit, t'as qu'à rester là. Je ne suis jamais repartie.
C'est fou.
C'est tout à fait authentique.
Parce que moi, j'ai eu la chance de visiter cet appartement. C'est vrai que l'esprit de Boris Vian, Mathias le disait tout à l'heure, l'esprit de Boris Vian est là. Mais est-ce que vous êtes... Tout le monde, tous ceux qui connaissent Boris Vian et qui s'intéressent un peu à lui, vous connaissent aussi, puisque vous êtes de toutes les préfaces et de toutes les intros et les expos et tout. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de vivre avec un fantôme, quand même, d'une certaine manière ?
En l'occurrence, non, parce que, encore une fois, j'ai eu la chance d'arriver très très jeune. À une vingtaine d'années, finalement, Boris Vian aurait pu être le grand-oncle qui est décédé il n'y a pas longtemps, jeune. Et puis Ursula, elle se faisait appeler l'oncle l'ours. Alors, elle détestait être tata ou autre chose. Donc c'était l'oncle l'ours. Alors, voilà, je faisais mon chemin avec l'oncle l'ours. Et puis, c'était comme un peu une maison de famille. Et comme moi, j'avais pas trop de famille, c'était un peu déshérité de ce côté-là. Finalement, tout ça s'est fait très tranquillement. Mais alors, je peux vous assurer que tout me parlait. J'étais parfaitement à ma place. C'était très compliqué. C'était difficile. Il y avait un enjeu pas possible. Mais j'étais à ma place.
Et merci pour ce que vous faites pour sa mémoire, parce que vous le faites vraiment vivre. Il est toujours là. Dans un instant, encore du Vian. Philippe Dussault va nous lire L'écume des jours, pas tout, hein. Sans filet. À tout de suite.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
La voix est libre, spécial Boris Vian continue. Nous sommes toujours installés tranquillement sur la terrasse des Deux Magots, sur le boulevard Saint-Germain, le quartier que Boris Vian fréquentait assidûment. Toujours avec nous, Nicole Berthold, mandataire pour l'œuvre de Boris Vian, directrice du patrimoine de Boris Vian. Mathias Malzieux, disciple de Boris Vian, chanteur et écrivain et cinéaste. Son film « Une sirène à Paris » est sorti mercredi. Et puis Pauline Carayon du CNL qui a son rond de serviette dans l'émission. Christophe Daniel aussi, le libraire de la 25e heure à Paris. Il faut toujours un libraire. Et puis il faut toujours un comédien pour nous faire entendre les romans. Chaque semaine, Philippe Dussault enregistre des passages, des livres cultes pour l'émission. Il se met dans un studio avec Boris Paczynski, notre réalisateur. Il fait une prise, mais il n'est pas complètement satisfait. Alors il en fait une deuxième, puis une troisième, parfois la quatrième, c'est la bonne. Parfois il referait bien tel ou tel passage. Cette fois, il nous le fait d'une traite aux Deux Magots. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et merci. Nous vous écoutons pour le début de L'écume des jours. C'est à vous.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé au sortir du bain d'une ample serviette de tissu bouclée dans seules ses jambes et son torse dépassé. Il prit à l'étagère de verre le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d'ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange, pareil au sillon que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Colin reposa le peigne et, s'armant du coupe-ongle, tailla en biseau les coins de ses paupières mates pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent, car elle repoussait vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s'en rapprocha pour vérifier l'état de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant cilé dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit la lampe. Il détacha la serviette qui lui saignait les reins et passa l'un des coins entre ses doigts de pied pour absorber les dernières traces d'humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait. Le blond, celui qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Cantine. Sa tête était ronde, ses oreilles petites, son nez droit, son teint doré. Il souriait souvent d'un sourire de bébé et, à force, cela lui avait fait venir des fossettes au menton. Il était assez grand, mince, avec de longues jambes et très gentil. Le nom de Colin lui convenait à peu près. Il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur. Le reste du temps, il dormait. Il vida son bain en perçant un trou dans le fond de la baignoire. Le sol de la salle de bain, dallé de grès cérame jaune clair, était en pente et orientait l'eau vers un orifice situé juste au-dessus du bureau du locataire de l'étage inférieur. Depuis peu, sans prévenir Colin, celui-ci avait changé son bureau de place. Maintenant, l'eau tombait sur son garde-manger. Il glissa ses pieds dans des sandales de cuir de roussette et revêtit un élégant costume d'intérieur. Pantalon de velours à côtes vert d'eau très profondes et veston de calmant noisette. Il accrocha la serviette au séchoir, posa le tapis de bain sur le bord de la baignoire et le saupoudra de gros sel afin qu'il dégorgeât toute l'eau contenue. Le tapis se mit à baver en faisant des grappes de petites bulles savonneuses.
Merci beaucoup Philippe, d'une traite comme ça c'est pas facile, merci beaucoup. L'écume des jours quand même, si vous avez un ado chez vous qui a 12 ans, allez 12 ans c'est magique, ce serait super si vous pouvez le lire maintenant, sinon il le lira plus tard, c'est pas très grave non plus, mais il le lira un peu différemment, c'est parfait, 12-14 ans comme ça. Je me tourne vers Christophe Daniel, notre libraire, c'est un classique l'écume des jours, est-ce que vous en avez toujours un petit peu en stock, est-ce qu'on vous le demande beaucoup, quel genre de public, comment ça marche?
Alors, on nous le demande régulièrement. Là, on en a un peu plus cette année parce que effectivement, on fête les 100 ans de Boris Vian. Mais c'est un texte, un roman qui est toujours lu. Alors, effectivement, comme vous le disiez, par un jeune public 14 ans, mais jusqu'à 114 ans. C'est un roman qui s'adresse vraiment à tout le monde. Alors, pour les jeunes lecteurs, en plus, il y a cette figure mythique de Boris Vian, c'est un peu un grand frère pour eux. Et tout au long de la vie, je crois que c'est vraiment un des rares écrivains qui s'adresse à tout lecteur de tout âge. Et donc, L'écume des jours... On le vend régulièrement, mais aussi d'autres romans de Vian. Je pense à L'Herbe Rouge, L'Automne à Pékin ou L'Arrache-Cœur. Et puis évidemment, Les Sullivan, et surtout j'irai cracher sur vos tombes.
On va revenir sur Les Sullivan, mais quand même, L'écume des jours, Mathias Malzieu, on l'a dit, c'est un livre qui se lit ado et c'est super parce que ça changera la vie à venir. Mais si on le lit à 30 ans, c'est pareil, ça nous changera aussi. Puis on le lira un peu différemment, puis à 40 ans encore différemment. Après, je ne sais pas encore. Mais c'est ça un classique finalement, Mathias Malzieu.
Oui, c'est une machine à remonter le temps émotionnel. C'est-à-dire que je l'ai relu il y a 4-5 ans et je me suis j'ai ressenti en fait le souffle de l'adolescence à nouveau, mais pas comme une régression, juste comme une vitamine littéraire et poétique,
une fraîcheur,
ouais. Parce que c'est drôle, parce que c'est tendre et parce que c'est dramatique, mais parce que c'est romantique finalement. C'est une vraie posture romantique ce livre là c'est le panache.
Je sais que ça vous a aussi donné envie d'écrire ce livre,
oui.
Enfin ce livre et Boris Vian.
Complètement.
Est-ce que ça peut pas bloquer parfois en se disant ah, ça c'est un peu trop Boris Vian, est-ce que vous essayez de vous en écarter ou vous inscrivez dans l'esprit d'eux?
Non, parce que finalement il est tellement particulier que c'est impossible, il est absolument inimitable, donc finalement c'est pas dangereux d'être inspiré par lui, c'est un état d'esprit plutôt qu'autre chose. On peut pas, il est trop particulier pour être directement dans la lignée. Il peut juste vous donner des pistes comme ça, des pistes à la joie, à la créativité, au ludique, et en fait aussi, comme on disait tout à l'heure, à ne pas se prendre au sérieux, mais à le faire très sérieusement, parce que c'était un travailleur immense. Il ne faut pas confondre ne pas être pris au sérieux et ne pas travailler. C'est encore plus courageux que de ne pas travailler, que de travailler très fort à ne pas se faire prendre au sérieux.
La seule chose qu'il prenait au sérieux, c'était le rire d'ailleurs.
Bien sûr, hein, le rire et la poésie.
Nicole Bertholdt, aujourd'hui L'écume des jours, ça a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. À l'époque, c'est pas...
On peut parler de millions ?
Comment ?
Ça a été vendu à des millions d'exemplaires. Hein. Ça, on le sait, je crois que c'est autour de 5 millions d'exemplaires.
5 millions, ouais.
Et puis, c'est difficile à chiffrer par rapport aux éditions étrangères. Quand Boris Vian, en fait, a sorti son livre, il faut savoir que J'irai cracher est passé juste avant. Très, très souvent, on pense qu'en fait, L'écume sort et J'irai cracher après. Eh ben non, enfin, c'est malheureusement J'irai cracher d'abord... Et quand l'écume arrive derrière, c'est encore plus problématique pour lui. Et il en vend, allez, on va dire 400 exemplaires sur les mois qui suivent. Et il y a des lettres que je vais publier prochainement, des lettres qui sont vraiment terribles. Parce qu'il dit d'un ton doux, amer et justement un peu drôle à un copain qui lui réclame un écume des jours. Mais des années plus tard, il lui dit « Mais mon grand, mais change d'écrivain, essaye de trouver un écrivain où on trouvera ses bouquins. Moi, il y a bien longtemps qu'on ne les trouve plus. » etc. Et voilà, et c'est comme ça. Et Boris Vian, il n'a pas été compris. Et là, on rentre dans le sujet, dans cette chose que vous dites et redites, et vous avez bien raison, on ne le prend pas au sérieux. Mais pourquoi faut-il prendre un auteur et un écrivain au sérieux? C'est assez étrange comme situation. Mais à l'époque, il y avait une espèce de quant à soi de l'écrivain, oui, qui devait être un peu sérieux. Et ce gars qui fait trois choses en même temps, c'est-à-dire être écrivain, trompettiste et ingénieur, c'est juste pas pensable et ce n'est pas normal. Il n'est pas dans la normalité et en plus il nous sort respectivement un écume des jours et vous imaginez, il nous sort un j'irai cracher sur vos tombes, oui. Sur la même branche. C'est comme si vous aviez deux oiseaux. complètement différent, de deux mondes différents.
Il est trop inédit, en fait. Puisqu'il invente et que c'est un créateur, on ne le comprend pas tout de suite, il faut un peu de
temps. Là où il est vraiment incroyablement fort, c'est de croire tellement à ses histoires qu'il sait effectivement les mettre en scène. C'est pour ça que vous disiez que c'était un roman musical, l'écume, et pas que. J'ai envie de dire, ce sont aussi des romans filmiques. Il les écrit comme s'il avait une caméra au bout de son stylo. C'est ce qu'il voulait faire, d'ailleurs. Mais là, là, c'était quand même placer la barre assez haut.
Alors, l'écume des jours, à lire,
ça a vraiment fait quelque chose.
À offrir. Dans un instant, on va parler enfin d'un livre plus sombre, un des livres préférés de Pauline Carayon, plus déroutant, J'irai cracher sur vos tombes. À tout de suite, juste après une chanson de Boris Vian.
Je suis snob, je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ma demande des mois d'urbain, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est bat. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre, spécial Boris Vian continue, toujours installé au Deux Magots, le café mythique, avec Nicole Bertholdt, Mathias Malzieux, Pauline Carayon, Carole Fernandez-Raven et Christophe Daniel. On en a parlé tout à l'heure de L'écume des jours, donc le roman sans doute le plus célèbre de Boris Vian, écrit en 1946. Comme j'irai cracher sur mon tombe, qui n'a rien à voir. D'abord, Nicole, il n'est pas signé Boris Vian, mais Vernon Sullivan.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un canular ou quoi? Qu'est-ce que c'est au départ?
Ah, c'est absolument un canular.
C'est Vernon Sullivan, traduit par Boris Vian, officiellement.
Voilà. Boris Vian a un copain dans l'orchestre qui s'appelle Zozo. Zozo, qui est contrebassiste, a un frère. Il s'appelle Jean Dalloin. Jean Dalloin veut monter une société d'édition pour faire du roman noir américain. On est juste après la guerre, ça va marcher du tonnerre. Et Jean Dalloin, il veut faire un truc tout simple, tout bête. Il veut gagner plein de sous avec un best-seller. À qui s'adresser? À Boris Vian. Ils vont au cinéma.
Mais il vend pas un livre, Boris Vian. Pourquoi il s'adresse à lui?
Mais parce que Boris Vian, il a quelque chose de plus. Et Jean Dalloin, c'était quand même un personnage qui était assez proche, en fait, de Boris Vian. C'est quelqu'un de suprêmement intelligent, qui avait quelque chose et qui savait vraiment qu'il pouvait demander l'impossible à ce gars-là. Et Boris lui dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux un roman noir. Donc, S, 100... sexe, suspense. Et ça, Boris Vian lui dit, ça me plaît. Qu'est-ce que tu veux encore? Mais je sais pas qu'on parle de l'Amérique, mais comme on n'en a jamais parlé. Ok, d'accord. Et à la fin de la conversation, et plutôt de la séance de cinéma, puisqu'ils sont allés au cinéma ce jour-là, Sa femme était présente à Boris, Michel. Ils ont déjà trouvé le nom et le titre. J'irai danser sur vos tombes. Ça s'appelle d'abord comme
d'accord,
ça.
D'accord, ouais.
Et pourquoi Vernon Sullivan ? Parce que deux musiciens de jazz, Paul Sullivan et Joe Vernon. Et en fait, ils se disent, il faut des noms assez doux, quand même un peu français et tout. Bon, d'accord. Alors, on a trouvé Vernon Sullivan. On l'a. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va trouver un sujet sympa. Les Noirs qui passent la ligne, les Noirs qui deviennent blancs. Drôle de sujet. Mais Boris était vachement intéressé à cela, en fait. Parce que c'était un vrai problème dans l'Amérique, en fait. En Afrique du Sud aussi, on ne savait pas quoi faire de ces gens-là. Et ils étaient des milliers et des milliers. On se dit, on va faire un truc comme ça. Et puis, on va faire un truc encore mieux. On va dire que je suis allée aux États-Unis, que j'ai rencontré un Noir qui a écrit ce livre et que personne ne veut le publier. Et moi, je vais arriver là et je vais dire, banco, je te le traduis, je l'amène chez un éditeur et en avant la musique. Et c'est si simple, on va rigoler. Boris va l'écrire en 14 jours et 14 nuits. Oui. Et c'est, il n'y a quasiment pas une rature dans le manuscrit, c'est phénoménal.
Et cette fois, c'est un succès. Ça se vend.
Ben, c'est pas un succès, c'est plutôt un scandale. Oui. Alors je ne sais pas comment il faut le dire, mais pour un Boris Vian, ça fait parler, mais pas en bien, parce qu'il va se faire condamner.
Oui,
il va se faire juger.
On rigole plus au bout d'un moment, parce qu'il risque quand même 20 ans de prison.
Oui, il risque la prison, il risque la prison, il risque une forte amende, et surtout, son livre va être mis au pilon. Alors. C'est ce qu'il y a de plus dur pour un écrivain.
Alors, c'est choquant, évidemment, mais Pauline Carayon, on en parlait tout à l'heure, vous adorez ce bouquin, mais il est quand même... Il est hyper trash.
Hein. Il est ultra trash. C'est le roman noir aussi, par excellence. C'est la quête d'un anti-héros superbe qui va, comment dire, assouvir un désir de vengeance qui est tellement violent. Et ce désir de vengeance-là, il va le matérialiser. Je veux dire, c'est... il va... tuer, il va violer, il va tabasser. Enfin, on a cocktail explosif en termes de perversité. Et en même temps, il y a une telle énergie, une telle pulsion vitale qui est exprimée par le héros. Et d'ailleurs, on trouve qu'il est aussi un mélomane, qui est un musicien, qui prend souvent d'ailleurs sa guitare et qui remplace des musiciens en pied levé dans le bourg de... Enfin, le bourg, non, c'est pas le bourg, la ville de Buckton. Et mais ça laisse quand même, ça laisse des traces, parce qu'aujourd'hui encore, moi je trouve, déjà le roman n'a pas pris une ride, et en plus c'est toujours aussi choquant. Enfin, moi ça m'a mis ultra mal à l'aise.
Mais c'est vrai, c'est le mot en fait.
Mais j'ai adoré ça.
Énergie. On sent l'énergie en lisant ce livre, c'est incroyable pour ça. Mathias Malzieu, vous l'aimez aussi ce livre-là de Boris Vian,
enfin oui, de Vernon Sullivan. En fait, moi j'aime ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Du coup, qui développe avec... en fait, il assume sa multipliance en prenant un pseudonyme. Et encore là, il s'amuse. Parce qu'il fait un pied de nez, il invente la mise en scène du pseudonyme. Donc c'est génial. Et le livre en lui-même, oui. Moi, je l'ai lu très jeune aussi.
Je vous verrais bien faire un truc comme ça, vous.
Ça
une sorte de canular.
Je trouve ça génial.
Si c'est pas déjà fait, d'ailleurs.
Ouais, en fait, il y a un écrivain très connu,
Stephen
c'est
King.
Moi. Et après, c'est tout. Non, j'ai jamais fait ça, mais j'avais trouvé ça vraiment génial. Pour le coup, c'est un vrai surprisier, là, quand tu fais ça.
C'est un exutoire, Nicole Berthold, ou alors c'est vraiment pour s'amuser ? C'est-à-dire, comme dit Mathias, c'est quelque chose qu'il a besoin de sortir, ou alors il s'amuse et puis il joue au type comme ça, un peu sombre.
En l'occurrence, si le canular est bien monté, l'enrobage est effectivement pour s'amuser. Le contenu, c'est évident qu'il est là pour exprimer quelque chose. C'est quelqu'un qui fréquente beaucoup les musiciens américains, noirs américains. Il s'est beaucoup renseigné en fait sur la question. Lui-même, il se considérait différent, comme je vous le disais, mais peut-être comme noir, parce qu'il avait une souffrance en lui. Et après tout, tous ces gens-là, ils avaient une sacrée souffrance. Quand on sait qu'il a hébergé, quand il a fait venir tant de musiciens noirs américains, que ces musiciens venaient ici parce qu'ils étaient mieux accueillis et qu'ils étaient surtout payés, et payés 3 sous, et qu'ils avaient une chambre de bonne à disposition, à 3 sous aussi. Mais c'était Byzance, parce que la vie qu'il menait à Harlem, elle était abominable. Il était très touché par ces Noirs américains, et il avait envie de parler de cette histoire. Et quand les Noirs américains lui parlaient du Ku Klux Klan qui continuait de sévir dans les années 40, mais c'était quelque chose de sidérant, parce que là, il l'avait en direct. Donc, il n'a pas pu s'empêcher. Sa première épouse, Michel, me l'a expliqué. Il n'a pas pu s'empêcher. Au début, il voulait faire quelque chose peut-être de plus léger. Mais petit à petit, il y a quelque chose dans la dramaturgie, en fait, dans le roman qui est monté. Et c'était effectivement une violence comme ça, ultime, mais quelque part, qui exprimait la violence que ces Noirs américains supportaient et subissaient.
Mais c'est très compliqué parce que cette œuvre-là, il est plus compris par cette œuvre-là que par sa véritable œuvre, en fait, c'est-à-dire l'écume des jours. Non, il y a cette incompréhension chez lui quand même. Quand il prend un pseudo, ça marche mieux, on en parle plus que quand il écrit l'écume des jours.
Non, je ne crois pas, ça dépend à quelle période vous vous placez. Si c'était à l'époque, en tout cas, encore une fois, il n'est pas plus compris que l'un que de l'autre. Vraiment,
oui, mais J'irai cracher sur vos tombes, ça va être adapté au cinéma, par exemple.
Oui, mais dans des conditions très médiocres, oui. Qui vont totalement lui déplaire.
Pourquoi il n'aime pas d'ailleurs l'adaptation? Pourquoi il ne veut pas de ça?
Peut-être parce que finalement, au fil des années, il a l'impression, en fait, qu'on lui vole son livre, qu'on le détourne de ce qu'il voulait faire. Et finalement, il y est attaché. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en détacher. C'est-à-dire qu'il voudrait l'oublier, il ne peut pas. Et en fait, finalement, il veut faire l'adaptation. Finalement, il va la faire, mais il ne va pas se faire entendre non plus. Donc, elle va être refaite. Et puis, les sociétés de production vont se racheter les unes aux autres. Et pour finir, après des années, on va se retrouver avec un J'irai cracher sur vos tombes qui est en fait vidé de sa substance et déteste ça. Là, ça ne lui plaît pas du tout.
Oui, parce que c'est un autre lui, mais c'est lui quand même.
Oui, c'est ça. Pauline.
Oui, moi, je trouve ça assez étonnant qu'il soit mort durant la projection.
La projection, hein.
C'est quand même une...
Pas,
c'est pas une mise en... Oui, une mise en abîme un peu étrange de la souffrance, je trouve.
Mais c'est vrai que tout est roman chez Boris Vian, il y a de ça aussi, quoi. C'est incroyable qu'il meure pendant la projection de ce film-là, avec ce titre-là, avec une adaptation qui lui plaît pas. C'est terrible. Il y a une forme d'ironie encore, mais terrible,
ouais,
cette
fois. Ouais, un peu terrible. Grosse ironie du sort.
Mais en même temps, c'est ça. Il essaye d'être un personnage de roman lui-même. Comme vous, un peu. Vous essayez d'être un personnage de roman, toujours.
Bah, je sais même pas s'il essaye ou si j'essaye, mais c'est que quand on est ce qu'on fait, quand on fait ce qu'on est, il y a des moments où il y a des petits bugs entre le réel et l'imagination, entre qui se passe. Et c'est forcément excitant parce que ça crée du mystère. Donc c'est attirant de vivre comme ça.
Et puis il y a ce côté très attachant, Boris Vian, quand même, aussi par cette subversion, par J'irai cracher sur vos tombes. Mais il y a le déserteur aussi. C'est pas un type lisse du tout.
Et puis, puis l'érotisme aussi.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a aussi.
C'est pornographique même, J'irai cracher sur vos tombes.
Bien sûr. Puis il y a tous les poèmes érotiques aussi qui sont géniaux.
Justement, on l'écoute, Le déserteur de Boris Vian, et on revient juste après.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
...14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, spécial Boris Vian depuis les Deux Magots, le café mythique de Saint-Germain-des-Prés. Boris Vian aurait eu 100 ans cette semaine, mais il publie encore des livres. Christophe Daniel, dans votre librairie, La 25e Heure à Paris, vous pouvez proposer un roman inédit de Boris Vian, enfin presque, ça faisait longtemps quand même.
Ah oui, c'est Noël. un roman inédit de Boris Vian, un roman qui s'appelle « On n'y échappe pas ». Alors là, on est peut-être plus du côté Vernon Sullivan que Boris Vian. Et alors l'histoire de ce roman est quand même assez incroyable. En fait, Nicole Bertholdt a retrouvé quatre chapitres, les quatre premiers chapitres écrits par Boris Vian de ce roman, plus un synopsis de l'ensemble. Et elle a demandé à Loulipo, donc ce groupe d'artistes, écrivains, et pas que.
Qui joue avec la littérature.
Voilà,
très Boris Vian dans l'esprit, même si Loulipo n'existait pas du temps de Boris Vian.
Ben, je crois que le Loulipo a été créé
juste après la mort
de Boris Vian. Mais il y a un esprit de famille évident. Les six membres de Loulipo contactés se sont jetés avec grand plaisir, et ça on le ressent à chaque page, dans l'écriture de On n'y échappe pas. C'est drôle, c'est... Alors évidemment, c'est les années 50, il y a des petites pépées bien carrossées, du whisky qui coule à flot, du jazz évidemment, et on se régale, on se marre, et franchement, allez-y, parce que voilà,
un inédit. Mais la guerre de Corée aussi.
Et la guerre de Corée, oui, parce que ce roman raconte l'histoire de Frank Bolton qui revient de la guerre de Corée. Et au moment où il retourne aux États-Unis, il se rend compte que toutes les femmes qu'il a aimées sont assassinées les unes après les autres. Donc il va se rapprocher de son ami Narcissus Rose et de sa magnifique épouse Carmen pour mener l'enquête et essayer de mettre la main qu'il n'a plus, puisqu'il l'a perdue pendant la guerre de Corée, sur l'assassin. Voilà.
C'est d'abord un polar quand même. Qu'est-ce qu'ils disent les clients? Ils sont pas un peu surpris de retrouver un livre de Boris Vian comme ça?
Oui, ils sont surpris de trouver un inédit de Boris Vian. En plus, il faut dire aussi que la couverture est magnifique. C'est Clémentine Mélois qui s'est chargée de la couverture, avec un clin d'œil à toutes les couvertures des éditions du Scorpion.
C'est la police de J'irai cracher sur vos tombes.
Exactement. Et voilà, donc esthétiquement, l'objet est magnifique. La couverture interpelle. Et puis évidemment, quand on voit Boris Vian et Loulipo, là, on y va les yeux grands ouverts.
Nicole, pourquoi maintenant? Est-ce que vous avez d'autres romans inédits que vous avez dans un tiroir? Comment ça se passe?
Non, mais je voulais simplement spécifier que ces quatre chapitres, c'est Ursula Vian qui me les avait confiés. Donc je ne les ai pas retrouvés, je les ai toujours eus. Et Ursula Vian m'avait dit, un jour, il faudra en faire quelque chose d'intelligent. Je peux vous dire que quand Ursula Vian Kubler vous disait ça, la barre aussi était très haut. Elle était du même genre que Boris. Et donc, je me disais, j'en ai parlé à la PDG de chez Fayard, Sophie de Closet. Et Sophie de Closet m'a dit, écoute, on pourrait faire comme ci, comme ça. Bref, on a dans son bureau, on a parlé. Il n'y a rien qui nous satisfaisait et tout. J'ai laissé reposer, c'est il y a 2 ans de ça. Et dans la nuit, je me suis levée. À un moment donné, j'ai dit, j'ai trouvé. Mais bien sûr que j'ai trouvé.
J'ai
tout simplement demandé à Loulipo, voilà, de faire des plusieurs fins différentes, etc. Et la coïncidence incroyable a voulu que, par hasard, le lendemain, je rencontre Marcel Benabou, qui est quand même le président, le secrétaire perpétuel, et quand même la personne qui représente un grand, grand monsieur de la littérature, monsieur Pérec. Et donc, j'ai vu Benabou dans la rue et je lui ai dit, attends Marcel, il est venu tout de suite à la maison, on en a parlé. Bon voilà, l'affaire, elle était faite, c'est évident. Ce qu'il fallait trouver, c'est quelque chose de bien. Boris, s'il l'a laissé inachevé, c'est parce qu'en réalité, il avait toujours 10 projets sur le feu et qu'il est fort probable qu'il y en ait un autre qui est passé juste devant à ce moment-là, et celui-là a été enterré, mais conservé, comme tous les écrits de Boris. Boris conserve absolument tous ses manuscrits.
Mais donc, on n'est pas à l'abri quand même d'avoir encore un autre roman inédit un jour? Vous ne pouvez pas en parler? Comment ça se passe?
Non, sincèrement, en tant que directrice du patrimoine, d'accord, je peux vraiment vous dire qu'on a à peu près tout fait. C'était là aussi la volonté d'Ursula Vian de publier maximum de choses pour que tout le monde puisse choisir, etc.
Vous avez regardé en sous le parquet et tout ça?
Pour ne pas que je sois après traitée de quelqu'un qui n'ait pas dit toute la vérité devant le micro. Simplement, le 8 avril sort les correspondances. Voilà.
C'est d'accord.
De Boris Vian.
Inédite.
Inédite. Et là aussi, c'est encore autre chose. Et ça aussi, mais c'est le dernier pan, on va dire, de l'œuvre, quelque part. Voilà.
Mathias Malzieu, c'est magnifique quand même de pouvoir lire un nouveau roman de Boris Vian.
Je ne l'ai pas lu en plus, moi encore.
Mais ça vous intrigue, cette histoire?
Ah bah oui, je veux le lire.
Je ne l'ai même pas offert.
Je ferai un plaisir d'aller l'acheter, mais en tout cas, c'est génial, parce que, merci, c'est très gentil.
Cadeau d'un libraire, c'est rare, ça. Il est bon, les livres.
En plus, il est hyper beau. Mais oui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec cette histoire de centenaire. Et c'est aussi grâce au travail de Nicole, mais il y a un côté, en fait, comme un samouraï. On dit un samouraï, en fait, quand on lui coupe la tête, en fait, il continue à se battre, il continue d'avoir une forme d'élan. Vous savez, comme quand on continue de voir les étoiles dans le ciel alors qu'en fait elles sont éteintes, mais que la lumière nous parvient
avec
encore.
Le délai.
Et ben ce livre, c'est un peu ça. Alors grâce à Nicole et grâce aux gens de l'Oulipo qui ont continué son geste, mais c'est génial, c'est un peu magique. Je trouve que ça vient du passé et ça arrive dans le futur, c'est génial.
Pauline Carayon, encore un voyage, un retour vers le futur avec vous, mais cette fois en musique. Pour une fois, vous ne nous parlez pas d'un livre, mais d'un coffret de musique, mais avec Boris Vian, ça va avec.
Ah oui, je vais vous parler de la sortie du coffret, d'un coffret de 100 chansons. Pour la plupart, il s'agit de titres inédits. À l'origine, ce sont les productions Jacques Canty qui sortent donc ce coffret. Pourquoi ? Parce que Jacques Canty, qui est à l'origine d'ailleurs de la création du théâtre des Trois Baudets, était un grand copain de Boris Vian qui s'y produisait régulièrement, tous les soirs.
120 fois.
Voilà. Ouais. Et c'est sa fille, c'est la fille de Jacques Canty, Françoise, qui est aussi à l'initiative de ce projet-là. Et on peut trouver d'ailleurs des chansons assez délicieuses comme Les chaussettes à clous de Jacques Higelin. On écoute un petit morceau tout de suite.
Très mutine, toujours à corte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, la loire d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elle prenne force de loi.
Mais aussi une reprise avec Fais-moi mal, Johnny Johnny de Magali Noël.
Fais-moi mal, Johnny Johnny Johnny, envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny Johnny Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Et je voudrais pas crever, bien sûr.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid, truffées de bulles.
Je ne peux que conseiller ce coffret à ceux qui aiment la poésie de Boris Vian, parce que lorsqu'on trouve des formules comme « Elle avait des yeux panthères au coin, dans l'herbe rouge » par exemple, ça fait rêver et ça fait beaucoup rigoler aussi.
Vous les connaissez par cœur toutes ces formules, vous ?
Quelques-unes.
Vous nous rappelez les références ?
Les chaussettes à clous de Jacques Higelin, Fais-moi mal Johnny Johnny par Magali Noël, J'aimerais pas crever. Et aussi j'avais oublié Don Don, interprété par Henri Salvador, dans le coffret édité par Jacques Canty.
Merci beaucoup Pauline Carayon, merci à tous. Mathias Malzieu, votre film est sorti cette semaine, Une sirène à Paris, il y a du Boris Vian aussi là-dedans. Merci beaucoup d'être venu.
Merci
à vous Nicole Berthold. Et je rappelle que vous avez publié un livre avec Alexia Guggemos, ça s'appelle Boris Vian, 100 ans chez Prisma, tous les sens, c'est-à-dire sans personnalité, avec des mots-clés comme ça, sans aphorisme, etc. Merci beaucoup aux deux magots de nous avoir accueillis. Carole Fernandez-Raven, il y a une exposition.
Il y a une exposition qui s'intitule Boris Vian, toujours vivant, et qui a lieu au De Mago du 9 au 23 mars et qui couronne cette belle année Boris Vian au De Mago.
Merci beaucoup et merci à Philippe Dussault et merci à Christophe Daniel, le libraire de la 25e heure à Paris. C'était la dernière page de cette émission. Merci aussi à Fabien Duchesne pour la prise de son, à Xavier Joly pour la programmation musicale et à Boris Paczynski cette fois, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.